on you.
Bonjour, vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Avec nous dans le studio, Raphaël Patou, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es le co-organisateur et responsable de l'organisation du Festival de Cave sur Lyon.
Oui, c'est ça, oui.
C'est donc la 7e édition du Festival de Cave qui a pour origine la compagnie Mala Noche à Besançon.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce festival et donc du coup sur la genèse de ce festival et en quoi ça consiste ?
Alors, le festival est né il y a 7 ans maintenant. Au départ, on n'était pas parti, on n'a pas commencé à jouer dans des caves parce que c'était pour faire un festival. C'était une commande du musée de la résistance et de la déportation de Besançon qui nous a commandé un spectacle autour du philologue allemand Victor Klemperer qui a écrit en fait pendant toute la guerre et dès que le nazisme est arrivé au pouvoir un journal où il raconte comment le nazisme c'est avant de s'immiscer dans toute la population, s'est introduit auprès des intellectuels et à l'université, comment on a assisté à une transformation de la langue. De la langue allemande. Et quand la question s'est posée de se dire où est-ce qu'on va jouer ce spectacle, comme dans un accord entre le metteur en scène, donc Guillaume Dujardin, et le musée de la Résistance, on a choisi de jouer ça dans des caves historiques de Besançon qui avaient servi pour des lieux de résistance ou pour que des juifs se réfugient. Et quand on a joué ce spectacle, on s'est rendu compte assez vite que ça crée avec le public une relation particulière, une forme d'intimité qui nous permettait de faire du théâtre autrement et d'essayer d'autres choses. Et du coup, à la suite de ça, Guillaume Dujardin, donc, qui est le directeur de la compagnie Mala Noche et metteur en scène, a eu l'idée de faire un festival qui se déroule dans les caves. Donc c'est parti véritablement de Besançon. La première année, c'était 7 spectacles sur 3 semaines. Et au fur et à mesure des années, on a eu de plus en plus de propositions. On a invité différents créateurs à venir créer dans les caves. Et le festival, maintenant, s'étend dans le quart nord-est de la France, entre Strasbourg et Lyon, et dans toutes les villes qui sont entre Strasbourg et Lyon. Donc on va à Montbéliard, Belfort, Vesoul, Lons-le-Saunier, Dole, on va un petit peu en Allemagne, on va un petit peu en Suisse, et du coup cette année on a 21 propositions et ça représente 130 dates entre les différentes villes.
Est-ce que tu peux rappeler les dates générales du festival ?
Donc le festival a commencé le 8 mai et se terminera le 20 juin.
D'accord, et donc plus spécifiquement sur Lyon, les dates du festival, c'est du 12 au 17 juin ?
Oui, c'est ça. C'est la deuxième année qu'on va jouer dans des caves à Lyon. L'an dernier, on a fait seulement 3 dates, cette année on en fait 6. Et j'espère vraiment d'ici 1 à 2 ans arriver à proposer à faire encore plus de propositions de spectacles de cave à Lyon et de faire un festival plus long.
Donc, avant de revenir du coup sur la programmation sur Lyon, j'aimerais peut-être que tu nous dises deux mots en fait sur toi, sur ton parcours et sur ta compagnie plus particulièrement qui s'appelle La Chambre Noire. Ma première question, elle est peut-être un peu bête, c'est pourquoi Chambre Noire, c'est un laboratoire de développement de théâtre ou pas du tout?
La partie laboratoire, je pense que qu'on l'a tous, tout le monde cherche des formes. Après, bon, je pense que n'importe qui doit nommer à un moment donné une structure tergiverse autour de différents noms. Je suis passé par beaucoup de choses. Finalement, je me suis arrêté sur la chambre noire. Parce que c'est une notion de photographie, parce que c'est une notion aussi de peinture, et que sur la question de faire apparaître, c'est-à-dire que je trouve très séduisant et poétique ce qu'on fait dans une chambre noire en photographie, dans le fait de faire apparaître des images. Et après, il y a l'ambiguïté de la chambre, il y a la relation au noir, parce que il se trouve que je suis fan de l'œuvre de Pierre Soulages. Au départ, je voulais appeler ma compagnie L'Outre Noire, mais j'avais trop peur de devoir à chaque fois que je passe un coup de fil ou à chaque fois que je dois présenter le nom de ma compagnie, qu'on me demande l'orthographe. Donc du coup, j'ai préféré simplifier en appelant ma compagnie La Chambre Noire.
Et du coup, quel spectacle avez-vous créé récemment et les projets de la compagnie?
Alors, la compagnie est véritablement est très très jeune. Elle a moins de 6 mois. Mais je pratique depuis quasiment une dizaine d'années. J'ai commencé à pratiquer à Besançon, entre autres auprès de Guillaume Dujardin dans le Festival de Cave. Il se trouve que et il a été un de mes formateurs à Besançon, qu'il m'a engagé par la suite et que très vite il m'a fait la proposition de produire mes spectacles. Et du coup, voilà, j'ai travaillé avec lui et avec d'autres compagnies. Et récemment, là, j'ai fait le choix de créer ma compagnie pour rassembler en fait le travail que je fais dans différentes compagnies et essayer de revendiquer l'unité de ce qui se passe dans différentes villes. Je travaille en fait entre trois régions principalement, entre la Bourgogne, Rhône-Alpes et la Franche-Comté, et du coup, pour essayer de donner un peu de lisibilité à mon travail, je rassemble ça sous ce nom-là.
Des auteurs préférés ou du moins une ligne artistique à défendre en particulier?
Dans les auteurs, et c'est ce qui fait que qu'on s'est mis à discuter, je reviens par rapport à la relation que j'ai avec le directeur du festival Guillaume Dujardin, Howard Barker est un auteur qu'on partage. On a monté dans le festival de Cave, entre autres, il a mis en scène La 12e bataille d'Isonzo, qui est un texte très particulier et très troublant dans une cave. Ensuite, dans les auteurs qui m'intéressent, j'ai mis en scène il y a maintenant 4 ou 5 ans Orgide, Pasolini, Büchner m'intéresse aussi beaucoup. Voilà, en fait, j'ai des intuitions de ce que serait ma ligne artistique. Après, j'essaie de pas trop porter un regard sur ce que je fais. Je crée des objets et c'est le temps qui dira s'il y a une ligne artistique véritablement ou pas. Après, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est la confrontation entre des problèmes très intime autour du désir, entre autres, et comment cette intimité-là est révélatrice, révèle d'autres enjeux politiques. Révèle des enjeux politiques. C'est comment à chaque fois des choses qu'on croit de l'ordre du privé finalement agit directement sur notre système de valeurs, notre manière de vivre ensemble, notre relation à l'autre.
Dans le festival de Cave, il y a un Dostoïevski que tu montes, tu peux nous en dire plus?
Oui, c'est un spectacle que j'ai créé il y a 2 ans maintenant avec Christian Pajot, qui est un acteur d'un certain âge, il faut dire, je sais pas, qui est un acteur qui a déjà beaucoup travaillé. Donc ça s'appelle L'inhumation volontaire et c'est une adaptation des Carnets de sous-sol de Dostoïevski. Il se trouve que c'est assez évident de se dire dans une cave, les carnets de sous-sol, il y a quelque chose qui fonctionne d'emblée très bien. Et après, j'avais envie de travailler sur Dostoïevski parce que le côté obsessionnel qu'il y a dans sa langue est répétitif et vraiment cette figure qu'on trouve dans les carnets de sous-sol qui ressasse me touche énormément parce qu'il raconte très bien comment un intellectuel à force de réfléchir seul peut être limité et devenir véritablement impuissant. Et y a dans cette impuissance-là quelque chose de profondément pathétique et à la fois qui me séduit énormément.
Donc on peut rappeler peut-être les dates de l'inhumain volontaire. Donc ça joue à Rioz le 12 mai, c'est ça?
Oui.
Enfin, ça a joué.
Oui.
À Dole les 31 mai et 1er juin.
Oui.
Et donc à Besançon le 9 juin prochain.
C'est ça, oui.
En fait, c'est demain. Je viens de me rendre compte.
C'est ça. C'est ça.
Ok. Pour revenir donc sur la programmation générale, pour essayer de faire un petit tour d'horizon et donner un aperçu pour les auditeurs, tu as sélectionné pour nous un extrait d'un spectacle de Léopoldine Hummel qui s'appelle Pas de panique, Daddy. On va en entendre très rapidement un extrait. Léopoldine Hummel, elle fait partie des comédiens permanents en fait du festival. Tu peux nous expliquer ça, ce système de comédiens permanents, metteurs en scène permanents et d'auteurs de partenaires invités là de carte blanche.
Oui. Alors le désir quand Guillaume Dujardin a créé sa compagnie, il y a eu un désir très fort véritablement de rassembler un certain nombre d'artistes issus d'horizons différents et de que la compagnie ne soit pas simplement là pour porter son travail personnel, mais aussi pour porter des spectacles, des comédiens avec qui il a l'habitude de travailler, des metteurs en scène dont il apprécie le travail et la démarche. Et donc du coup dans le projet des caves, le projet des caves est ce qu'il est aujourd'hui avant tout parce que il y a une équipe d'acteurs qui est présente et qui porte ce festival véritablement. Et du coup là c'est le Pas de panique d'Addy, c'est un spectacle qui a été créé l'an dernier pour l'édition 2011 du festival et c'était une proposition de Léopoldine Hummel qui désirait mettre en musique des textes qu'elle a aimé jouer, qu'elle joue en ce moment ou qu'elle souhaite jouer à un moment donné. Et ce qu'elle a fait aussi, c'est en lisant autour des différents spectacles qui sont présentés dans les caves, elle a mis en musique des textes en relation avec les différents spectacles. Et c'est du coup, elle a créé un objet très personnel. C'est une musicienne, une excellente musicienne qui du coup ramène tout un univers musical bien particulier. Elle chante aussi avec une voix très belle voix et du coup elle a comme ça dans on peut la retrouver dans l'intimité d'une cave avec tout son univers, les textes qu'elle a choisis, sa musique et elle qui les interprète.
On va entendre tout de suite un extrait qui s'appelle « Vos bisdous ».
Voilà une chanson de Magie Blanche, qui est une femme qui connaît très bien les brasseries et comment fonctionne une brasserie, et qui est appelée à la rescousse dans une pièce de Kofi Kwaole, qui s'appelle « Brasserie ». Ils sont dans la concourse, les personnages, et ils disent, il y a une brasserie, je voudrais l'allumer, je ne sais pas comment faire, et là ils disent, mais pourquoi on n'appelle pas Machi Blanche? Et là ils s'appellent Machi Blanche, elle arrive, elle allume la brasserie, et elle retrouve son amant, Mein Väterchen. Et voilà ce qu'elle lui chante, au loin. C'est en langue étrangère, hein, si vous voulez maintenant fermer les yeux, c'est possible, pour ressentir un peu les vibrations allemandes. Wo bist du, mein Väterchen?
Vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle et nous venons d'entendre un extrait du spectacle de Léopoldine Hummel qui s'appelle Pas de panique Daddy. Donc c'est dans le cadre du festival de Cave, un festival qui se déroule du 8 mai au 20 juin et dont un des coordinateurs sur Lyon et metteur en scène Raphaël Patou est avec nous dans le studio aujourd'hui. Donc le spectacle de Léopoldine Hummel, on vient de l'entendre, elle est extrêmement drôle. Elle s'accompagne d'une petite harpe, c'est ça ?
Oui, là sur ce morceau-là, elle s'accompagne d'une petite harpe. Sinon, elle est multi-instrumentiste, donc elle passe du piano à l'accordéon, à une sorte de tube sonore. Elle a aussi une pédale sampling, ce qui lui permet de basculer dans de la musique plus bruitiste, je sais pas comment dire, de vraiment travailler avec des sons très étranges.
Et pour les auditeurs qui voudraient la voir, est-ce qu'elle a encore des représentations là avant le 20 juin ?
Oui, elle joue mardi 12 à Hollande. Et il me semble qu'elle joue ce soir à Montbozon, donc c'est en Franche-Comté.
Donc on va peut-être rappeler tout de suite, même si on va essayer de le rappeler à la fin de l'émission, le numéro de réservation pour tout de suite réserver vos places.
Alors pour les réservations, le numéro c'est le 03 81 83 25 04. 03 81 83 25 04. Et sinon il y a un mail, c'est festivaldecave au pluriel tout attaché @yahoo.fr. Et ce qu'il faut faire en fait, je pense qu'on va en reparler, par rapport au lieu de représentation, on garde ça secret jusqu'au dernier moment. Donc quand vous réservez, on vous demandera bien sûr la date et le titre du spectacle, votre nom, mais aussi un numéro de téléphone afin qu'on vous rappelle la veille pour vous dire au dernier moment l'endroit où vous devez vous rendre pour la représentation.
Alors ça, c'est très étrange. Pourquoi une telle précaution de clandestinité?
Ben, c'est vraiment parti par rapport au premier spectacle sur Victor Klemperer, où on voulait jouer le côté clandestin, comme lui a été clandestin, c'est-à-dire qu'en écrivant son journal dont je parlais tout à l'heure, il veut véritablement faire acte de résistance, et il a dû, de manière clandestine, cacher des pages de son journal à plein d'endroits, et explique comment ça lui... C'est toute une organisation du secret pour dire de se protéger et de ne pas de ne pas se faire prendre par les nazis. Et du coup, la première année, quand on a joué ce côté clandestin, on s'est rendu compte que ça re-ritualisait la représentation de théâtre. Et c'est quelque chose qui nous intéresse, dans le sens où c'est comme un temps de préparation avant la représentation. Les gens seront, on donne rendez-vous en fait dans un lieu public, un parc, devant un monument, devant un bâtiment public. C'est à cet endroit-là que la billetterie se fait. Une fois qu'on a toutes les personnes qui sont rassemblées, on marche, ça c'est jamais des marches très longues, mais 5 minutes à travers la ville jusqu'au lieu de représentation. Et on s'est rendu compte qu'avec ces 5 minutes où on est tous en groupe juste à marcher, ça crée quelque chose, je vais dire, qui fait que quand les spectateurs rentrent dans la cave, c'est comme s'ils s'étaient préparés à entendre ce qu'on allait leur proposer. Et du coup, c'est quelque chose qu'on conserve et dont on est assez heureux. Et c'est très ludique, même pour quelqu'un qui ne viendrait pas voir un spectacle, juste de se trouver au lieu de rendez-vous dans le parc ou à l'endroit où on s'est donné rendez-vous, dans le sens où on voit arriver des personnes qui errent, qui scrutent autour d'eux pour essayer de comprendre où ça se passe véritablement, et qui à un moment donné nous repèrent et s'approche très discrètement presque à voix basse, nous demande « c'est ici le Festival de Cave ?» Il y a un côté comme ça, très intime d'emblée, qui fait que ça crée quelque chose. Je sais pas quoi exactement, et on en est toujours surpris, mais ça amène quelque chose.
Et un peu dans le même esprit, jouer dans des caves, je lisais dans votre dossier de presse que c'était une façon de trouver plus d'audace dans la création. Et j'avais noté une phrase, nous mettre à l'écart pour prendre des risques. Est-ce que ça veut dire que vous prendriez pas de risques dans d'autres structures plus classiques ou...
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on est tous amenés à créer le reste de l'année dans des structures, dans d'autres types de structures et d'institutions. Et on se rend bien compte, quand on est créateur, qu'à un moment donné, la pression, même si on essaye de s'en détacher, c'est tout ce que tout le monde souhaite, mais la pression d'avoir de la presse qui vient, d'avoir des professionnels qui viennent, d'avoir des institutionnels, des politiques qui viennent, fait qu'à un moment donné, ça peut biaiser le geste de création. Et en créant ce festival de Cave, nous on communique systématiquement sur l'ensemble du festival, c'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est plus une programmation avec un état d'esprit et un ensemble de spectacles, mais c'est pas un spectacle en particulier. Et c'est pas, c'est-à-dire que l'expérience des caves, c'est une proposition globale, mais c'est à l'intérieur de ça, il n'y a pas quelque chose qu'on met en avant ou qu'on retire, de plus mis en avant que le reste. Ce qui fait que même au niveau des politiques, des institutionnels, des journalistes, notre objet, c'est les caves. Après, ce qui s'y passe, c'est une autre histoire. Et c'est là où quelque part, on peut se permettre de prendre plus de risques et où on se rend compte que tous nos spectateurs et aussi les institutionnels et les politiques qui viennent nous voir prennent le risque avec nous.
Donc j'aimerais aussi, c'était la question que je me posais, c'était par rapport à l'éclectisme de la programmation. Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite par rapport à une thématique en particulier chaque année, ou c'est vraiment libre?
C'est vraiment libre. Ce qu'on souhaite, c'est que les caves soient un lieu de création, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de programmation. On ne va pas voir des spectacles pour savoir si on les programme dans les caves ou pas. Le partage qu'on souhaite avoir, c'est plus un partage de vie à la base. C'est-à-dire qu'au fil de nos années, on rencontre des comédiens, un metteur en scène, avec qui on trouve une complicité intellectuelle ou artistique. Et donc, à partir de là, la proposition qui est faite, c'est de se dire, est-ce que ça t'intéresse d'avoir une cave à disposition pour créer un spectacle. Mais il n'y a pas de désir d'amener une ligne artistique en particulier, il n'y a pas de désir d'amener une idéologie en particulier. Ce qui compte, c'est plus c'est la part, comment dire, arbitraire de cette programmation. C'est une histoire de climat, de feeling avec les différents créateurs et les différents invités. Et maintenant que le festival grossit depuis quelques années, Guillaume Dujardin, la compagnie Malanoche, commence à recevoir des dossiers de compagnies qui aimeraient se faire programmer chez nous. Ça n'est vraiment pas le désir du festival. On veut pas finalement introduire dans ce festival ce qui peut se passer par ailleurs. C'est soit on est dans la confiance et on prend le risque tous ensemble, sans avoir un droit de contrôle par rapport à la prise de risque, tout ce genre de choses. On ne veut pas réintroduire ça dans les caves, c'est vraiment des cartes blanches où on se fait confiance les uns les autres et on défend collectivement le travail de tout un chacun.
On va peut-être plus passer de temps sur l'édition lyonnaise, donc qui se passe du 12 au 17 juin. Est-ce que déjà tu peux peut-être nous parler des soutiens, par exemple de la ville de Lyon, des différentes librairies?
Oui, alors du coup à Lyon c'est la deuxième année et il se trouve que au fur et à mesure des rencontres, déjà je suis allé rencontrer la ville de Lyon qui m'a fait le plaisir de véritablement soutenir cette action là j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer deux librairies, le Bal des Ardents et la librairie Les Vengeances Tardives qui se situe dans Lyon 7e et qui ont été séduits aussi par le projet. Et donc du coup on a trouvé un système de partenariat, c'est plus symbolique à l'heure actuelle que véritablement concret. Mais pour nous c'est important, de même si on est dans les souterrains de la ville, de rester en relation avec la ville.
Il y a aussi le théâtre de l'Élysée.
Théâtre de l'Élysée où j'ai pu organiser une conférence de presse et qui nous aide à communiquer autour de notre action.
Donc on va peut-être plus spécifiquement se pencher sur la programmation lyonnaise, à commencer par le premier spectacle, Les Nuits Blanches de Dostoïevski.
Le mardi, on commence avec Charlie Chanteur.
Ah d'accord, donc je me suis emmêlée dans ma programmation.
Oui, Les Nuits Blanches, je joue aussi mardi, mais il joue ailleurs. Je ne sais plus où. Mais en tout cas, à Lyon, ça sera Charlie Chanteur.
D'accord, donc on va peut-être commencer par parler de Charlie Chanteur. Et donc, si tu peux nous en dire plus.
Alors, Charlie Chanteur, c'est le spectacle, c'est un spectacle musical. C'est Charlie Marty qui a créé ce spectacle et qui chante et qui interprète ce spectacle. Et comme il le présente lui-même, c'est un vrai faux concert avec un vrai faux chanteur. L'idée, ça peut rejoindre un peu dans l'état d'esprit la proposition de Léopoldine Hummel, dans le sens où c'est Charlie Marty avant tout comédien, mais aussi musicien. Et en gros, c'est une proposition musicale où il amène tout son univers. Au fur et à mesure des années, il a écrit ce qu'il appelle des poèmes poubelles, c'est-à-dire des poèmes vaguement écrits sur un bout de page qu'on oublie, qu'on jette, et il est retourné les chercher. Et à partir de là, il a composé de la musique et il a composé comme ça des chansons qui composent désormais un spectacle. Donc c'est tout un univers complètement... je sais pas comment dire, baroque ou farfelu. C'est une personnalité comme ça à découvrir. Et ce spectacle-là, Charlie Chanteur, a été créé à la suite d'un premier spectacle qu'il avait fait un peu dans le même état d'esprit, mais il y avait plusieurs acteurs qui s'appelait Spleen, qui était une forme pour trois acteurs, pareil, musical, où il ramène toute sa mélancolie, tout son spleen, toute sa poésie, son ridicule et aussi sa beauté.
On va écouter tout de suite donc un extrait de La Belle et le Fort de Charlie Marty, Charlie Chanteur.
Anthony Ribaud était le garçon le plus populaire et le plus fort du collège. Il sortait avec la fille la plus belle du collège. Je me souviens plus comment elle s'appelait, mais c'était sûrement un prénom comme
Jennifer, wanna gonna flex to me.
Jennifer,
wanna gonna home to free her.
Certains matins avec les gens de ma classe, dont Anthony Ribaud, nous allions flâner dans les galeries marchandes de mammouth pour nous faire des trous dans les oreilles, pour voler du chlorethylène que l'on sniffait caché dans les buissons qui donnaient sur le parc d'un asile psychiatrique proche. Et puis on lançait des cailloux.
Jennifer, wanna gonna flex to me,
wanna flex to me,
wanna gonna want to free.
Un jour, je sais pas pourquoi, mais Anthony Ribaud cassa avec la fille. Je sais pas non plus pourquoi, mais une copine, elle est venue me voir. Jennifer, elle veut sortir avec toi. Est-ce que tu veux sortir avec elle à 17h devant le portail? Ouais, ok, ok.
Jennifer, wanna gonna flex to me?
Oh, Jennifer,
wanna gonna want to free her?
Nous nous sommes rejoints, elle a mis ses mains autour de mon cou, moi autour de sa taille, maladroitement. Il était 17h et devant le portail, tout le collège nous regardait. Il y avait comme un silence. Nos bouches se sont collées et nos langues se sont rencontrées pour tourner, tourner stupidement, inversant l'espace et le temps.
Jennifer, wanna gonna flex to me,
wanna flex to me,
wanna gonna want to free.
Une fois nos bouches décollées, elle me dit: je sais que t'as pas cours demain matin, et moi non plus. Alors si tu veux, on peut se retrouver à 8h devant le portail pour s'embrasser pendant une heure. S'embrasser pendant une heure. Mais Anthony Ribaud est venu me voir. Ouais, il est venu me voir. Et il m'a dit: figure de paix, sucée, tu crois quoi? Moi, tu veux me stalker? Demain matin, rendez-vous avec les autres devant le mammouth tout. Sinon, si tu vas avec elle, je te casse les dents. Tu feras chez mon gang. Balé, 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 bam, bam. Je te casse les dents. Tu feras chez mon. Ouais, 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 ouais. Que fallait-il faire? Que fallait-il devenir? Je savais que ce moment serait le plus important, définitif, du reste du cours de ma vie. Être un chevalier ou avoir les dents cassées. Est-ce que l'amour s'est fait forcément mal aux dents? Elle a mis ses mains autour de mon cou, mais quelque chose de bizarre s'est passé. Elle m'a dit: en fait, je casse. C'était juste pour rendre Anthony Ribaud jaloux. Ok, d'accord.
Jennifer,
Jennifer,
flex to me,
one flex to me,
one and a one, two,
three, one, two, three, yeah.
Jennifer,
one, two, three,
one, two, flex to me.
La Belle et le Fort, j'y pense tous les jours. Belle, Fort, Belle Fort.
Et donc c'était un extrait du spectacle Charlie Chanteur que vous pourrez venir voir pendant le festival de cave à Lyon qui se déroule du 12 au 17 juin. Et donc plus particulièrement, donc ça c'est un des premiers, ça ouvre en fait le festival
ça
de
ouvre,
Lyon.
Ça ouvrira la semaine de Lyon, donc ça sera mardi 12, 20h. Et je ne vais pas dévoiler l'adresse exacte, mais ça sera dans Lyon 1er.
D'accord, et bon. Vous l'avez entendu, donc ça a l'air d'être assez déjanté et drôle. Donc on conseille vraiment aux auditeurs de se rapprocher de leur téléphone pour réserver. On redonnera le numéro de téléphone à la fin de l'émission. Mais tout de suite, on va parler d'un des deux spectacles que tu mets en scène pour le Festival de Cave. Donc ça s'appelle Chronique d'un suprasensuel. Et donc c'est adapté d'un texte de Léopold von Sachermassor, c'est ça,
Oui, il y a plusieurs prononciations, mais Sachermassoche, oui.
C'est ça, Sachermassoche. Ça s'appelle La Vénus à la fourrure, tu peux nous expliquer un peu le...
Alors oui, pour situer un peu Léopold von Sachermassoche, on est en Autriche au 19e, et Massoche, c'est à partir de son nom qu'on a formé le terme de masochisme. J'ai désiré travailler sur ça parce que je m'intéressais à la littérature érotique, et la question de l'érotisme au théâtre me plaît, et j'aime la travailler, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon travail. Et il se trouve qu'à force de lire, je suis tombé sur ce texte qui est vraiment un texte de référence, et j'ai souhaité l'adapter pour les caves. Donc c'est la création que j'ai conduite cette année. C'est une histoire d'amour entre une femme, Vanda, et un jeune homme, Séverin. Et c'est une histoire d'amour qui va petit à petit évoluer vers un contrat masochiste où lui fera le choix de se donner entièrement à elle et de devenir son esclave. Et de lui remettre véritablement sa vie entre ses mains. Et donc du coup, on assiste à cette histoire d'amour très particulière où un jeune homme se donne entièrement à la femme qu'il aime. Et après, voilà, c'est un univers Séverin a constitué, ça s'appelle La Vénus à la fourrure, parce que Séverin est fasciné par une toile du Titien qui représente une femme nue, simplement enveloppée d'une fourrure, et du coup il crée une forme il devient complètement fétichiste de la fourrure, et c'est un thème comme ça qui transparaît dans le spectacle. Et on parle aussi de peinture, de l'image. Voilà, sans dire de tout dévoiler, c'est une histoire d'amour masochiste.
Deux comédiens sur scène.
Oui, Pearl Madifold et Pierre-François Loireau, qui sont deux acteurs permanents du festival, qui présentent un autre spectacle à Lyon dont on va parler juste après, After the End, et qui sont issus de l'école de Cannes et qui poursuivent leur travail le reste de l'année avec d'autres compagnies, et qui chaque année nous rejoignent pour jouer dans les caves. Donc des habitués, c'est vraiment des acteurs tout terrain qui sont déjà rodés par rapport à ce que c'est que de jouer dans une cave.
Donc ça, c'était une création vraiment pour le Festival de Cave, vous l'avez...
Oui, et qui ne jouera que dans les festivals de cave.
Et vous le jouez uniquement à Lyon, ou il y a d'autres dates?
Non, on a la première a eu lieu à Lons-le-Saunier. Le spectacle ensuite a été joué à Besançon. Ce week-end, nous serons à Montbéliard et nous venons à Lyon ensuite.
Et donc, rappelez du coup l'horaire et le lieu, enfin pas le lieu, mais...
Donc ça sera mercredi 13 et jeudi 14 à 20h, et ce sera dans une cave de Lyon 1er.
D'accord. Eh bien, nous allons donc passer au spectacle.
C'est extrait musical.
Ah oui, mais oui, pardon. Et oui, il y a un extrait musical. Donc, pourquoi avoir choisi ce Velvet Underground pour nous amener dans le spectacle?
Parce que c'est une chanson qui a été composée à partir de La Vénus à la fourrure, à partir du texte. C'est un texte qui a été énormément commenté, avec énormément de préfaces. Et là, c'est la partie rock, une interprétation par le Velvet.
Yeah.
Underground, inspiré par ce texte de Léopold von Sacher-Masoch, pardon, La Vénus à la fourrure, qui est donc un des textes que tu mets en scène, Raphaël, pour le Festival de Cave, la 7e édition du Festival de Cave. On a très peu parlé en fait de ton autre spectacle sur Dostoïevski, L'Inhumain Involontaire.
L'inhumation, oui. L'inhumation volontaire, oui. Qui est adapté donc des carnets de sous-sol et que dire, c'est par rapport au ressassement d'un homme, d'un intellectuel. Je peux difficilement en parler dans le sens il y a une forme de temps dans ce spectacle, une recherche poétique comme ça qui est bien particulière. C'est vraiment le ressassement d'un intellectuel. Voilà.
J'étais un peu pris au dépourvu, désolée.
Non, il n'y a pas de problème. c'est.
Puisque du coup, je voulais donc parler de... de After the End, c'est ça?
Oui, After the End, c'est le spectacle qui suit la semaine du Festival de Cave à Lyon. Donc ce sera le vendredi 15 juin 20h et le samedi 7 juin 20h dans une cave de Lyon 7e.
C'est un texte de Denis Kelly.
Oui, Denis Kelly, oui.
Et c'est mis en scène par Olivier Werner.
Oui, Olivier Werner qui est implanté désormais à Valence, qui est un metteur en scène d'un peu plus d'une quarantaine d'années. Pour ceux qui l'auraient vu, entre autres, il a présenté un Denis Kelly à la Colline l'an dernier, qui a eu du succès et qui tourne beaucoup. Et donc là, pour les caves, il fait une proposition sur le même auteur. Il a traduit le texte avec la comédienne, donc c'est vraiment la création en France de ce texte-là. Ça raconte l'histoire de deux amis, un homme et une femme, enfermés dans un abri anti-atomique. Pour différentes raisons, je peux pas parler beaucoup plus de l'histoire, mais ce que je peux dire de ce spectacle en termes de style, il y a dans les dialogues et dans les situations que nous propose Denis Kelly une forme de réalisme et une grande virtuosité pour créer du jeu et créer des situations. Et il a il y a une très grande subtilité dans l'écriture des dialogues et le réalisme est quelque chose de très dur à réussir au théâtre. Et là, pour le coup, ce qu'il arrive à faire, c'est très étonnant, c'est extrêmement vivant et c'est porté par les mêmes acteurs avec lesquels je bosse, avec lesquels j'ai travaillé pour les chroniques d'un suprasensuel. Et donc du coup, ça fait deux acteurs comme ça qui, avec ce texte, nous proposent un spectacle assez long, mais nous proposent un moment en dehors.
J'avais lu que Denis Kelly était aussi un scénariste pour la télévision, donc peut-être il y a une écriture qui porte ce réalisme-là.
Oui, et c'est très actuel. C'est très les deux personnages qui nous proposent. On pourrait les croiser sans problème dans notre entourage. La langue est vraiment actuelle et pas surfaite. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on essaie d'avoir des fois une langue vraiment dans l'air du temps, on sent qu'il y a quelque chose de forcé. Alors que là, il y a quelque chose. Si on aime le réalisme, c'est vraiment à voir.
Et donc pour le dernier spectacle programmé dans ce festival de Cave à Lyon, c'est un texte de Dostoïevski encore une fois qui s'appelle Les Nuits Blanches, qui est mis en scène par Damien Houssier.
Oui, qui est comédien et qui est sorti assez récemment du Conservatoire de Paris.
Et donc, pour résumer ce spectacle, c'est quelques mots d'amour possibles dans la solitude.
Oui, c'est l'univers. Pour ceux qui aiment Dostoïevski, j'ai vu le spectacle il y a à peine une semaine. Pour ceux qui aiment Dostoïevski, c'est vraiment. Il faut vraiment venir dans le sens où la langue est véritablement portée par les deux acteurs, qui sont Maxime Kerzané et Léopoldine Hummel. Que dire, c'est encore un autre type esthétique. On bascule sur d'autres moyens théâtraux. On sort du réalisme. Je trouve que c'est une très pour quelqu'un qui aime Dostoïevski, c'est extrêmement jouissif.
On va en écouter tout de suite un extrait.
Savez-vous, Nastenka, où j'en suis? Savez-vous que j'en suis à fêter l'anniversaire de mes sensations, l'anniversaire de ce qui me fut cher, de quelque chose qui, au fond, n'a jamais existé, parce que l'anniversaire que je fête est celui de mes rêves stupides et vains. Et à faire cela, parce que même ces rêves stupides ont cessé d'exister, parce qu'il n'est rien qui puisse les aider à survivre. Même les rêves doivent lutter pour survivre. Savez-vous qu'à présent, j'aime me souvenir et visiter à telle ou telle date les lieux où j'ai été heureux à ma façon. J'aime construire mon présent en fonction d'un passé qui ne reviendra plus. Légère souvent comme une ombre, sans raison et sans but, morne, triste, dans les ruelles et dans les rues de Pétersbourg.
Et donc vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle. Nous avons passé un peu moins d'une heure avec Raphaël Patou, metteur en scène de la Chambre Noire, qui co-organise le Festival de Cave, la 7e édition, en partenariat avec la compagnie Malanoche à Besançon. On vient d'entendre un extrait des Nuits Blanches de Dostoïevski, qui est un des derniers spectacles programmés sur le Festival de Cave à Lyon. Est-ce que tu peux du coup nous redonner les numéros de réservation, Raphaël, ainsi que le site internet ou l'adresse contact mail pour réserver les places?
Donc le numéro de réservation, c'est le 03 81 83 25 04. 03 81 83 25 04. Et l'adresse mail pour réserver, c'est festivaldecave, cave au pluriel, @yahoo.fr. Quand on réserve, précisez bien la date, le nom du spectacle, le nombre de places, bien sûr. Et il faut aussi laisser un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler la veille pour vous donner le lieu de rendez-vous en ville. Voilà.
Est-ce qu'il y a aussi un site internet pour retrouver l'intégralité de la programmation pour les auditeurs qui n'auraient pas pu noter les spectacles qui les intéressent ?
Pour retrouver l'intégralité de la programmation du Festival de Cave, il faut se connecter au site www.compagniemalanoche.fr. Sinon, sur Facebook, il y a une page Festival de Cave et Festival de Cave à Lyon où toutes les infos sont reprécisées.
Bon, avant de nous séparer, nous allons entendre la chronique paysagère de Combord. Merci Combord d'être parmi nous. Mais avant de te laisser la parole, je voudrais juste faire une petite annonce. Annoncer le spectacle, malheureusement je sais que c'est sur les mêmes dates que votre festival, Raphaël. Mais je veux annoncer donc les dates du spectacle La Chevauchée sur le lac de Constance de Peter Handke, qui est donc mis en scène, réalisé par le collectif Microcerf avec Raphaël Defour et Nicole Mercet. C'est un texte poétique musical, une partition pour voix. Et donc il y a une première partie, une maquette qui sera donc jouée tous les soirs du 12 au 16 juin au Théâtre de l'Élysée. Je n'ai pas les horaires malheureusement, mais vous pouvez tout retrouver sur le Théâtre de l'Élysée. 19h 19h30 à peu près à l'Élysée. Florent à la technique, que je salue parce qu'il a super rassuré, nous rappelle les dates. Mais tout de suite, la chronique paysagère en rapport avec l'obscur, l'underground, le souterrain.
Oui, la mise en abîme aujourd'hui, puisque je ne savais qu'une chose, c'est qu'on allait parler de théâtre en cave, donc c'était un petit peu, c'était obscur, parce qu'il n'y avait pas encore de contenu, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, dans Pinocchio, à un moment donné, on se retrouve non pas dans une cave, mais dans un monstre marin. Mais des fois, quand on est dans une cave, on veut en sortir. Et il se trouve que je viens d'écrire, j'ai déjà lu un extrait, une parodie de Pinocchio qui s'appelle Fiasco. Et je vous propose un petit extrait où en fait le Fiasco, qui est aussi un pantin, retrouve son créateur, Polenta Alberto, dans le ventre d'un monstre marin. Petite lueur. Petite lueur, pria-t-il comme il appellerait un chaton. La petite lueur vacillait dans le lointain. L'odeur de poisson ranci était insoutenable. Le pantin pataugeait dans une substance huileuse d'où parfois s'éclairait un œil mort. Heureusement pour son moral, la clarté tout au bout devenait plus distincte et dansante à chaque dérapage. Quand il fut arrivé, que trouva-t-il ? Une chandelle coquettement vissé sur une bouteille habillée de cire, le tout trônant sur un guéridon à l'ancienne mode. Devant cette installation était assis un petit vieux, aux gestes alertes, à la perruque un peu déteinte. Il mâchonnait sans grand plaisir des poissons sélectionnés entre ses doigts. Certains, encore vifs, se contorsionnaient entre ses lèvres. Il ne s'en affectait pas, car il en avait à revendre. À cette apparition, le pantin ne se sentit plus de joie. « Suis-je fou pour de bon ? Vais-je rire ? Vais-je pleurer ? Vais-je perdre l'usage de la parole ?» Il se jeta au cou d'Alberto et poussa un tel cri qu'ils partirent tous deux à la renverse. « J'avais donc eu le bon pressentiment !» considéra le marionnettiste en remettant d'aplomb sa moumoute. « La bestiole t'avait bien avalé !» Vous vous êtes jeté à l'eau pour une simple créature de bois. N'êtes-vous pas un peu dérangé ? Ou est-ce l'effet de l'âge ? Il fallait bien que je te pardonne tes facéties. Tu les as héritées de mon tour de main. Maintenant, c'est à moi de prendre les initiatives, emporter toutes ces bougies et de quoi les allumer. Lorsque nous serons remontés jusqu'à l'embouchure, nous ferons éternuer l'asthmatique, ce monstre, et nous nous laisserons porter par le courant d'air. Le projet est charmant, mais quand m'apprendras-tu à nager ? Je suis en bois de saule, une vraie planche de sauvetage. Je vous conduirai jusqu'au rivage. Vous n'aurez même pas à faire d'efforts. Tu n'as pas renoncé à tes illusions, tête de bois. Avec ta toute petite taille, tu ne supporteras pas mon poids. Qui ne tente rien à rien. D'autre part, je suis dans l'obligation de vous rendre la monnaie de votre pièce. Sans un mot de plus, Fiasco s'empara de la bouteille en verre où était plantée la bougie, avec celle qui n'avait pas encore servi, et rassembla une bonne réserve de graisse. « C'est un vrai labyrinthe, » prévint Alberto. Dans les premiers temps, j'ai arpenté cette outre en tous sens pour apercevoir l'étoile polaire et déterminer ma position, mais il se trouve que lorsque le monstre engloutit une bouchée, on est renvoyé en arrière par une quantité de cochonneries. C'est lassant. Je m'étais isolé peinard dans le coin le plus bas de cette architecture. Le garde-manger, il a fallu que tu m'en déloges. Je mérite bien ce qui m'arrive. C'est pas possible d'être si influençable. À sa respiration moins bronchiteuse, on entend bien qu'il dort, dit le pantin, sans se décontenancer. J'ai bien fait de te percer les oreilles. Ça me console, car je commence à être dur de la feuille. J'en ai peur. Ils cheminèrent dans les boyaux ainsi. À l'entrée du palais, le mal de mer monta d'un cran. Ils entreprirent d'allumer toutes les bougies après avoir délicatement enduit de graisse le fond de la langue. L'odeur âcre du carbone manqua de les étouffer. Malgré les flammes, on y voyait goutte. Bientôt, l'immense sous-marin commença à s'ébranler. Le monstre, dérangé dans son sommeil, se secouait comme dans un mauvais lit. « Accrochez-vous à une dent. Il va d'abord inspirer violemment avant de nous mettre à la porte !» cria Fiasco dans une quinte de toux. Effectivement, l'aquilon mit en péril leur équilibre sur la mâchoire. Ce fut une aspiration gigantesque vers les tréfonds. Alberto et Fiasco n'entendaient qu'une basse continue et crissante, un archet famélique. Lorsque les poumons furent emplis jusqu'à la suffocation, il y eut un instant d'arrêt qui laissait présager que le pire était à venir. Le répit marqua le summum de l'angoisse. Rien ne se passait, car tout allait se précipiter en une tornade inimaginable. Quelque chose débraya dans la carcasse du colosse, comme une vis sans fin délongée d'autorité, ou un ressort en décompression. Les deux reclus furent mitraillés par des bancs de poissons morts ou vifs, des fragments de coraux et des débris de vaisseaux. Ils lâchèrent prise en se roulant en boule, ils s'abandonnèrent au déluge. Ils ne pouvaient rien faire, pas davantage que le ton stoïcien qui les dépassa à la vitesse d'un obus. À combien de miles du point de départ furent-ils propulsés ? Malheureusement, aucun témoin ne peut le dire en toute honnêteté, sans minimiser ni exagérer. En plus des projectiles et de l'expectoration, des fumerolles les bombardaient de toutes parts, reliquat de l'incendie qu'ils avaient provoqué. Un gaz méphitique se propageait dans l'atmosphère, retombant à la surface de l'océan en une nappe toxique que se distribuaient les étincelles. « Éloignons-nous encore ! Éloignons-nous encore !» à Anne Fiasco, en essayant d'accrocher son créateur par sa barbe à moitié consumée. « Profitons de cette tempête qui nous est favorable !» Les vapeurs striées des scarbilles sifflaient dès qu'elles atteignaient l'eau. Alberto attrapa son pantin par les hanches, et la créature de bois crôla droit devant, du mieux qu'elle pouvait, en charriant l'homme à bout de force.
Vous êtes sur Radio Canu et vous venez d'entendre une chronique paysagère suite à l'émission Le Théâtre de la Gamelle sur le Festival de Cave. Merci Florent.
Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci Combor.
La semaine prochaine.
Et la semaine prochaine, c'est donc une pièce de Maurice Maeterlinck que nous allons lire à plusieurs voix. Merci Raphaël.
Merci à vous.
Et on rend l'antenne pour les auditeurs, pour la bande continue. Au revoir tout le monde.
Je pourrais pas te faire un bon jingle.